Et sur l'idée que chaque membre peut être un ministre dans l'Église de Jésus-Christ, chaque membre peut avoir un ministère. Nous avons examiné plusieurs passages en 1 Corinthiens. Et ce matin, je vous invite à cette lecture de Romains chapitre 12. Et je vais vous lire l'ensemble du chapitre. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors ce mois-ci, ce mois de rentrée, nous regardons les passages qui parlent des dons et des ministères dans l'Église. Et dans ce chapitre 12, en Romains, les versets 3 à 8 nous concernent particulièrement. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a 4 passages en particulier où on parle des dons dans l'Église. On a déjà vu 1 Corinthiens 12, ici en Romains 12. Il y a un autre passage en Éphésiens, chapitre 4. Et puis juste un petit en 1 Pierre, chapitre 4. Donc, on retrouve le thème à plusieurs endroits. Plusieurs apôtres en parlent. Donc, on peut savoir que c'est un sujet important pour la vie de l'Église et la vie du chrétien. Et quand on parle des dons spirituels, on peut dire que oui, c'est quoi ça? C'est un peu bizarre, mais cette question des dons spirituels, finalement, c'est la question des ressources humaines dans l'Église. Toute entreprise, tout organisme sait à quel point il est préoccupé par cette question des ressources humaines. Mais nous, on a ce cadeau de Dieu, c'est que bien avant que l'homme mette en place les bureaux des RH, eh bien Dieu l'a pensé et Dieu le gère. C'est lui le DRH. Et ça change tout d'avoir Dieu comme notre DRH parce que il est le Dieu tout-puissant de l'univers et il habite en nous. Donc les ressources humaines sont plus tant humaines. C'est ça le problème des ressources humaines, c'est qu'il y a trop d'hommes, trop d'humanité, trop un côté humain. Mais dans les ressources humaines avec Dieu, c'est des ressources spirituelles maintenant, divines. Et notre DRH, il est aussi le Père Céleste qui aime tous ses enfants de la même manière. Mais dans sa sagesse, comme dit ce verset, il repartit ses dons, ses capacités, ses fonctions de manière différente. Et ça, je pense, tout parent le vit, le sait. Un parent, une famille où il y a plusieurs enfants, les parents aiment chaque enfant de la même manière. Mais lorsqu'il s'agit de donner des cadeaux, par exemple, des cadeaux d'anniversaire, lorsqu'il s'agit de repartir des privilèges, on va le faire différemment. Chaque enfant ne reçoit pas exactement le même cadeau chaque anniversaire. On va faire une différence entre garçon et fille. On va faire une différence entre un bébé de 1 an et puis un adolescent de 13 ans. Les cadeaux vont changer, les privilèges vont changer. Mais l'amour que les parents ont envers les enfants ne change pas. Et c'est ça l'Église. On a un Père Céleste qui nous aime tous de la même manière, mais dans sa sagesse, dans sa bonté, il va repartir de ses dons, ses capacités, ses ressources humaines de manière différente. Alors ce matin, j'aimerais aborder une question, certainement c'est la question qui vous brûle depuis tout ce temps. Quand on parle des dons dans l'Église, des dons spirituels, quand on lit ces passages, ces listes, la question la plus naturelle qui nous saute à l'esprit, c'est quel est mon don ? Quel est mon don ? Quel est mon ministère ? Quel est mon don spirituel ? Alors c'est la question que j'aimerais aborder ce matin, quel est mon don spirituel ? Alors, j'aimerais l'aborder ainsi. Tout d'abord, on va voir que ce n'est pas une mauvaise question en soi. Quel est mon don spirituel ? Ce n'est pas une mauvaise question en soi. Deuxièmement, j'aimerais voir que ce n'est pas la bonne question. Et puis, troisièmement, quelques principes pour aller vers une réponse, quand même. Donc, ce n'est pas une mauvaise question en soi. Ce n'est pas la bonne question. Mais on a quelques principes pour bien vivre ces dons spirituels. Tout d'abord, ce n'est pas une mauvaise question en soi. Quel est mon don spirituel ? Je pense qu'en lisant ce passage, notamment les versets 6 à 8, on ne peut qu'être interpellé par la question, puisque Paul le dit carrément, nous avons des dons différents, donc que celui qui a le don de prophétie, que celui qui a le don de l'enseignement s'attache à son enseignement, que celui qui a le don de la miséricorde le fasse avec joie, que celui qui préside, qui a un don de présidence d'administration, qu'il le fasse avec zèle. Donc, la pensée majeure qui sort ici, et Paul est en train de dire aux chrétiens, mettez le gros de votre énergie, de votre implication, de votre zèle, de votre attachement, mettez le gros dans le domaine où vous avez le don, où Dieu vous a donné ses capacités. Donc, dès que Paul dit ça, quelque part, ça signifie qu'on peut être conscient du ministère que Dieu nous a donné ou d'une capacité particulière de la fonction qui correspond au don que nous avons reçu de Dieu. De toute manière, le vrai chrétien, il veut servir dans l'Église. Le principe est basique, verset 11, servez le Seigneur. Et dès qu'il veut servir, la question vient à l'esprit, mais comment puis-je servir les autres ? Où est ma place dans l'Église ? C'est ce que nous essayons de vraiment mettre en avant toute cette rentrée. Chaque membre, un ministre, chaque membre, un service. Alors la question c'est où est-ce que je vais investir mon temps, mon énergie ? Et de comprendre cette notion des dons spirituels, ça peut nous aiguiller. C'est là où on va investir de l'énergie, du temps, des finances, d'autres choses pour vivre ce que Dieu veut pour nous. Même reconnaître tout ça peut nous conduire à faire des choix de vie importants ou des choix de rythme de vie où on va pouvoir servir Dieu au mieux. Et je trouve cet appel quand même intéressant de la part de Paul quand on y réfléchit, l'idée que celui qui a reçu un ministère qui s'attache à ce ministère, c'est-à-dire soyez ciblés dans votre manière de fonctionner. Pourquoi insister comme ça? On ne dirait pas, par exemple, que celui qui aime les bonbons, eh bien, qu'il mange les bonbons. Ou que celui qui aime parler, eh bien, qu'il parle. Souvent, il faut dire le contraire. Que celui qui aime parler, eh bien, qu'il s'était un peu, qu'il laisse les autres parler, pour une fois. Pourquoi faut-il dire, dans ce contexte, que ceux qui ont un don, qu'ils s'appliquent à pratiquer ce don, est-ce que ça ne vient pas naturellement ? Eh bien, justement, peut-être pas. Mais on dit ça, Paul dit ça, parce qu'il sait que dans un corps, notamment l'image du corps humain, c'est là où ça fonctionne le mieux. Pareil, dans une usine, dans une équipe de sport, ça fonctionne le mieux quand chacun sait où est sa place, sait ce qu'il peut bien faire et fait le bien. Mais parfois, cela nous est difficile. Justement, cela nous vient naturellement. Il y a un autre moment dans les écrits de Paul, il écrit à Timothée, et il doit dire à Timothée, il commence son épître à Timothée, de Timothée, en disant à Timothée, tu dois ranimer la flamme du don que tu as, reçu. Et il insiste de telle sorte qu'on se demande, ceux qui lisent cette épître reconnaissent qu'il semble que Timothée ne mettait pas autant en pratique son don comme il aurait pu. Il semble que Timothée avait un don, est-ce que c'était de prédication, une évangéliste courageuse, mais ce don semblait se refroidir un peu, et Paul lui a dit, mais donne-toi, ranime la flamme du don. Alors, pour nous tous, est-ce que ça nous arrive de bien qu'ayant un don, une capacité en l'Église, de ne pas s'attacher, de ne pas s'appliquer comme il faudrait? Je pense à plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à ça. Tout d'abord, par timidité, c'est peut-être le cas de Timothée. Il avait un don pour la prédication, pour l'évangélisation peut-être, même si de nature, il semble qu'il était plutôt timide. C'est pour ça que Paul va dire, on n'a pas reçu un esprit de timidité. Donc, vas-y Timothée. Et j'aime bien cette idée parce qu'on ne peut pas limiter un don spirituel à quelque chose qui nous vient naturellement ou facilement. Timothée dirait, m'avancer comme ça, je suis plutôt de nature timide, donc c'est sûr que je n'ai pas le don d'orateur. Et Paul dirait, non, tu as reçu ce don, ça je le sais. Donc, même si ça vient parfois pas naturellement ou pas facilement, il y a une timidité, vas-y quand même avec non pas ta force, mais celle qui vient de Dieu. Donc, une raison, je pense qu'on ne s'attache pas autant qu'on faudrait, c'est peut-être par timidité. Une autre raison, c'est par découragement. Peut-être on l'a fait pendant un temps et quelqu'un nous a critiqué. Alors là, on se retracte un peu. C'est vrai, organiser quelque chose, quelqu'un qui doit présider une réunion ou un projet, c'est sûr qu'il va rencontrer des obstacles, des critiques, et il peut dire, à quoi ça sert, après tout, je vais juste m'asseoir tranquillement, et comme ça. Quelqu'un qui se miséricorde, qui veut montrer la compassion, il va montrer la compassion, et la personne ne va pas être reconnaissante. Alors il va dire, mais ça sert à quoi, après tout? Donc, mais Paul est en train de dire à ces chrétiens, non, ne restez pas là, si vous avez ce don, faites-le avec joie, même s'il y a des obstacles, si vous présidez, faites-le avec zèle, même s'il y a des freins, des difficultés. Une autre raison peut-être qu'on ne s'applique pas autant, c'est par paresse. Quelqu'un peut avoir un don pour quelque chose, on a parlé un peu de la musique ou autre, mais... voilà, il n'investit pas le temps qu'il faudrait pour le développer, pour le perfectionner, pour faire du progrès. Quand on a un don, ça ne veut pas dire que tout est automatique et qu'on sait faire comme un maître. Non, un don se travaille, se développe. Et c'est pour ça qu'il va dire dans ce chapitre, pas de la paresse, ayez du zèle dans tout ça. Mais de toute manière, quand on réfléchit, c'est non, effectivement, on ne peut que se poser, mais quel est mon don? Est-ce que je suis en train de s'attacher à ce que Dieu m'appelle à faire, un ministère qu'il me donne, le service qu'il me donne? Parce que de toute manière, c'est nécessaire pour bien croître. Les ressources humaines, c'est ce qui permet à tout organisme de bien développer, de bien fonctionner. Et plus une organisation, plus un organisme grandit, plus il faut repartir les rôles. C'est là où nous en sommes en tant qu'Église. Il faut encore réfléchir sur ces questions de dons pour pouvoir grandir. Vous savez, ça existe des organismes unicellulaires. Certaines bactéries, les organismes unicellulaires. C'est-à-dire, une seule cellule, c'est ça l'être, c'est ça l'organisme. Et puis, c'est créé comme ça. Certaines peuvent être, ils sont en général microscopiques, mais ils peuvent avoir les grands impacts comme des bactéries. Mais c'est unicellulaire. La chose que Dieu n'a pas conçu son Église, son corps, pour être unicellulaire, ni dans ça. Tout ne repose pas sur une personne. C'est la multiplication va être permise quand il y a tout l'organisme avec des cellules, avec cet ADN dans le corps qui donne différentes fonctions, différents rôles. Donc, c'est normal de vouloir savoir où est ma place, quel est mon don spirituel, comment je peux m'appliquer à cela. Ce n'est pas une mauvaise question. Maintenant, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la bonne question. En tout cas, ne passez pas votre vie chrétienne à se dire « Quel est mon don ?»« Quel est mon don ?» ou « Moi, j'ai le don de ?»« Moi, j'ai le don de ?» ne passez pas votre vie chrétienne à vous tracasser avec cette question ou à vouloir mettre en avant une réponse. La Bible ne met pas l'accent sur cette question. La Bible ne met pas l'accent sur l'introspection. C'est vrai, ces dernières années, on a été un peu influencés par la psychologie moderne. Donc, on peut vous faire des bilans de compétences, on peut vous faire des tests de personnalité, on peut vous faire des questionnaires pour vous aider à... on le fait dans les ressources humaines et on pourrait aussi le faire pour aller vous aider à comprendre votre don spirituel. Et peut-être pour certaines, ça peut apporter un déclic. Mais il semble que ce n'est pas vraiment la méthode de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas cette question, quel est mon don, ce n'est pas ce qu'il met en avant. Parce qu'à force de se poser des questions, ou de vivre avec cette question en tête, ou de le mettre en avant dans l'église, il devient quasiment impossible de faire le verset 3. Le verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Vous voyez le problème, dès qu'on vit, dès qu'on se plonge dans cette question « Quel est mon don ?» et qu'on y reste, c'est difficile de ne pas sortir avec une opinion trop haute de sa personne. Moi, je sais bien faire ça. Je suis excellent dans ce domaine. Et à force de se dire ça, on quitte le cadre du verset 3. Les Corinthiens, on a déjà vu, les Corinthiens avaient grandement insisté sur l'importance des dons. Donc, ils venaient au culte. Quel est ton don? Regarde mon don, je vais te montrer mon don. Voilà, c'est super. Et puis, toute leur vie d'église était cette insistance sur les dons. Et cela, il leur est devenu impossible d'avoir des sentiments modestes. Il semble qu'on peut faire une règle. Plus on parle des dons, moins il y a de maturité spirituelle dans l'Église. Plus on parle de Jésus-Christ, plus qu'on recherche Jésus-Christ, plus il y a de maturité et que les dons sont pratiqués. Et je m'étais dit, c'est un peu comme les pédales de votre voiture, de la voiture. C'est très pratique, les pédales de la voiture, l'embrayage, le frein, l'accélérateur. Combien de vous, en venant à l'église ce matin, se sont vraiment appliqués à quelle pédale, comment j'appuie tout ça, quel ordre, vous l'avez fait, mais sans y réfléchir. Si on passe tout son temps à regarder les pédales, on va nulle part, même on risque l'accident. Non, on est appelé quand on conduit de regarder devant, regarder la destination, regarder la route, et puis les pédales, ça vient. Mais ce n'est pas l'accent. Je me souviens quand ma femme, maintenant ça remonte des années, apprenait à passer en voiture avec vitesse. Hein, elle savait déjà conduire voiture automatique. Mais elle me posait des questions pendant qu'on me disait, mais comment tu fais? Mais quand est-ce que tu débrayes? Moi, incapable de répondre à de telles questions. Parce qu'on le fait. Et c'est comme ça dans l'église. Si on passe tout notre temps, quel est ton don? Quel est mon don? Comment tu fais? Je dirais, comme dans une voiture, c'est plutôt bon signe qu'on ne sait pas répondre précisément parce que ça veut dire qu'on a maîtrisé le fonctionnement et que la voiture roule. Dans l'église, c'est la même chose. En ce qui concerne le service dans l'église, la grande question de la Bible, ce n'est pas quel est mon don, mais c'est quel est mon caractère? Quel est mon amour pour Dieu? Quel est mon dévouement pour le Seigneur? Quelle est mon ressemblance à Jésus-Christ? C'est évident, quand on choisit des responsables d'église, des anciens et des diacres, notamment, aucun verset dit « Choisissez un ancien parce qu'il est le don de présidence » ou « Choisissez un diacre parce qu'il a particulièrement le don de service ou de miséricorde ou d'enseignement. » Quand on choisit les responsables d'église, on ne parle pas de don, on dit « Regardez le caractère, choisissez des gens avec tel caractère. » Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours la question à se poser, quel est mon don, mais plutôt quel est mon caractère. Ce n'est pas tant votre travail individuel à reconnaître votre don, mais c'est le travail collectif de l'Église. Les uns et les autres vont le confirmer, vont le reconnaître en vous. Vous, vous servez, et puis les autres vont dire, ah, lui je vois, il fait très bien ça, on va l'encourager à faire ça. C'est un peu classique, le jeune qui dit, Dieu m'appelle à être pasteur. Très bien, mais la première chose qu'on va demander, c'est son entourage. Que pensent ses anciens? Que pense son église? Que pense sa famille en Christ? Que pensent ses amis proches? Et ce n'est pas tout de l'affirmer. Il y a une confirmation collective des autres. Spurgeon, il raconte une histoire qui est pas mal. Et un homme débarque, Spurgeon c'était ce grand prédicateur à Londres, donc une grande église. Et un homme débarque dans son bureau un jour, il dit voilà, j'ai le don d'enseignement, l'esprit me dit que je dois enseigner dans cette église, donc l'étude biblique suivante, jeudi prochain, Dieu me dit c'est moi. Et Spurgeon, il comprenait comment fonctionne le Saint-Esprit, il dit ça, c'est impossible, parce que si le Saint-Esprit voulait ça, il aurait aussi informé le conseil de cette église pour savoir. Donc, il y a tout un cadre que la Bible nous donne. Une femme qui dit « j'ai le don de pasteur », le Saint-Esprit me dit que je dois être pasteur, doit aussi affirmer que le Saint-Esprit a changé d'avis depuis qu'il a écrit la Bible pour repartir les dons. Donc, ces choses-là, ce n'est pas tout de le dire, de l'affirmer. Il y a des confirmations collectives et avec des principes de la Bible qui vont pouvoir affirmer. Donc, ça, c'est une raison de ne pas vraiment toujours se mettre en avant. C'est le danger, c'est se mettre en avant si on passe toute notre vie chrétienne à se demander ou chercher une réponse à cette question. Quel est mon don spirituel? Et puis, l'autre problème, c'est que parfois, on peut tomber dans la pensée échappatoire des dons. C'est-à-dire, c'est parfois un prétexte trop facile à ne pas servir de dire « Ah, j'ai pas ce don-là. J'ai pas ce don-là. J'ai pas le don pour ça. » Mais tout le monde remarque que tous les dons ici, en Romains 12 notamment, toutes ces choses, quasiment toutes ces choses, sont reprises ailleurs dans le Nouveau Testament et tout le monde est invité à le faire. Tout le monde est invité à pratiquer la miséricorde, tout le monde est invité à enseigner, tout le monde est invité à exhorter les autres chrétiens, tout le monde est invité à donner avec libéralité et générosité. Et il y a des cadres où vous êtes le président, peut-être en famille, en tant que père de famille, où voilà, il y a des cadres où vous allez présider, les jeunes président une réunion, ben, on le fait avec zèle. Pratiquer la miséricorde, tout le monde est appelé à faire ça. Donc, si vous mettez encore trop d'accent sur ça, c'est mon don, mais ça, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas ce don. La Bible va vouloir vous corriger en disant non. Pour la plupart des activités chrétiennes, on est tous appelés à s'impliquer et puis Dieu va utiliser certaines personnes, va donner une productivité à certaines personnes qui affiche un don, mais c'est jamais un prétexte ou une excuse à ne pas servir dans l'église. Donc, quel est mon don spirituel? C'est pas une mauvaise question, mais c'est pas la question. Alors vous dites, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai quand même envie de savoir, ou en tout cas j'aimerais m'impliquer dans l'église selon la sagesse que Paul me demande dans ce chapitre. Alors qu'est-ce que je fais? Et maintenant j'aimerais vous donner quelques pistes vers une réponse. Peut-être peut vous aider à vous orienter des choix ou des implications dans les ministères qu'on essaie de présenter tout au long de ce mois de septembre. La première chose que j'aimerais dire, c'est ne regardez pas vers l'intérieur, l'introspection, ne regardez pas à l'intérieur, regardez vers l'extérieur. Regardez autour de vous. Regardez les gens autour de vous. Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Regardez l'extérieur, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez un besoin dans l'église, très probablement, c'est votre don qui est en train de s'exprimer. C'est votre don qui vous donne la perception des besoins, des lacunes qu'il peut y avoir. Un aigle qui vole très haut dans le ciel, il ne dit pas, mais comment se fait-il que personne ne voit ces rongeurs, ces petites souris que je vois courir dans les champs? Comment se fait-il que les autres ne le voient pas? Eh bien, c'est parce que Dieu l'a fait, l'a doté avec cette vue pour qu'il ait, parce que ça va avec son don de chasse, de pouvoir attraper ces rongeurs pour faire bien fonctionner l'environnement. Donc, si vous voyez un besoin, probablement ça correspond à un fardeau, à un don qui est sur votre cœur. Il y a certaines personnes qui vont voir les besoins plus facilement que d'autres. Dans un domaine, c'est parce que voilà, le cœur bat pour ça, parce que Dieu les a créés ainsi, leur a donné ce don. C'est pareil pour le corps humain, qui est l'image principale du Nouveau Testament. Le nez, il sent la fumée dans la maison. Alors il dit pas, mais comment ça fait-il que je suis le seul membre du corps qui sent la fumée et qui s'inquiète? Les autres font rien, c'est bon, je vais me taire parce que ça semble pas intéresser. Non, le nez, il fait pas ça. Le nez, il sent la fumée parce qu'il sait sa fonction et puis le reste du corps se mobilise et travaille en équipe peut-être pour éteindre le feu ou agir. Donc ça, c'est l'Église. Si vous voyez un domaine qui vous intéresse, si vous voyez un besoin, ne blâmez pas les autres, ne pas le voir. Dites justement, c'est peut-être en fonction de ma personnalité, mes fonctions, mes capacités que je puisse l'apercevoir. Vous savez, c'est assez facile, cette église ou bien d'autres églises, des personnes dans l'église, comment vous complétez cette phrase? Je trouve que cette église manque de... Alors, je pense que chacun, en tout cas c'est notre souci à tous, de vouloir combler les lacunes dans une église. Aucune église est parfaite, donc on pourrait toujours compléter cette phrase. Je trouve que cette église manque de... Alors les uns vont dire, je trouve que cette église manque d'amour. Les autres vont dire, je trouve que cette église manque d'organisation, de structure. Les autres vont dire, je trouve que cette église manque de direction, de vision. Peut-être toutes ces réponses, différentes personnes vont répondre de différentes manières. Aucune réponse est entièrement fausse, certainement. Mais probablement, vous répondez en fonction d'un don, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont particulièrement attentionnées, qui peuvent vraiment montrer la compassion envers les autres. C'est peut-être cela qui vont dire, ah, je trouve qu'il manque un peu d'amour ici. Mais s'ils le voient, c'est que Dieu les a placés là pour combler cette lacune. Donc, ça, c'est vraiment une clé pour discerner votre don spirituel. C'est ne regardez pas à l'intérieur, l'introspection. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Certainement, ce que vous voyez, les yeux que Dieu vous a donnés pour voir, vont avec le don que Dieu vous a donné pour répondre à tel ou tel besoin. Et une autre chose à faire, si vous voulez vraiment pratiquer les dons spirituels, je pense que si on viendrait à l'apôtre Paul avec cette question, mais Paul, l'apôtre Paul, quel est mon don spirituel? J'ai lu Romains chapitre 12, les versets 6 à 8. Je ne sais pas, enseignement, exhortation, miséricorde, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Paul? Je pense que Paul dirait, bon, tu prends chapitre 12, Romains chapitre 12, tu lis tout et tu le vis. Fais-le, fais les versets 1 à 3, fais les versets 9 à 21, fais tout ça et en 3 mois tu me reviens en discutant. Alors, d'accord, et puis... On fait tout ça, on fait tout Romains 12, qui est un aperçu un peu ensemble des côtés pratiques de la vie chrétienne que Paul développe après toute cette partie doctrinale de son épître et il passe aux choses quotidiennes, pratiques, la vie chrétienne. Paul dit, fais tout ça. C'est tous ces impératifs. Fais tout ça et puis on discutera après que tu as fait tout ça de ton don spirituel. Et effectivement, faites tout ça et vous allez voir. En faisant tout ça, en vivant dans l'Église, en vivant la vie chrétienne, vous allez voir, oui, dans certains domaines, peut-être une joie, une passion, une affinité, peut-être une productivité accrue par rapport aux autres. Bien, un frère va vous encourager à ce que tu m'as dit là, ça m'a vraiment encouragé. Ou là, c'était l'étude, le partage que tu as fait, c'était clair. Quand tu enseignes, ça m'encourage vraiment. Merci vraiment pour l'autre jour quand tu as pensé à moi, quand tu m'as fait ce cadeau, ça tombait merveilleusement bien, ça m'a relevé, j'avais vraiment besoin de ça. Donc les autres vont, à force de faire tout ça, de servir, de se réjouir dans l'espérance, de pleurer avec ceux qui pleurent, d'exercer l'hospitalité, de ne pas rendre le mal aux autres, en faisant tout ça, vous allez voir que comme les pédales de la voiture, ça va se mettre en place naturellement. Faites ce que Paul vous dit dans les versets, dans tous les autres versets, et vous saurez. Et enfin, je termine avec ça. Quel est mon don? Comment vivre mon don? Comment exercer ce ministère? Quel est mon don spirituel? J'ai dit, c'est peut-être pas la question. La meilleure question, c'est c'est quel est le don que Dieu m'a donné, quel est le don que Dieu m'a donné. Et le verset qui était affiché ce matin, c'est « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux ». Dieu nous a donné un don merveilleux, il s'appelle Jésus-Christ. Et déjà en Romains, juste avant, Paul avait dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ ». Et c'est ce don-là qui va vous permettre de vivre la vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'il dit, le chapitre commence ainsi, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu ». C'est-à-dire les 11 chapitres précédents, Paul a expliqué ce don merveilleux, le don par excellence de Dieu qui est Jésus-Christ, et qu'il nous le donne, et sa justice, il nous l'impute, il nous l'offre. Et c'est ce don. Et après, Paul dit, « Je vous exhorte donc, parce que vous avez reçu ce don, cette compassion, à vous offrir comme un sacrifice vivant. » Et c'est dans la mesure que vous avez compris que Jésus, il était un sacrifice sanglant, un sacrifice mourant, que vous serez, vous, un sacrifice vivant pour lui. La phrase même est intéressante, un sacrifice vivant. C'est quoi un sacrifice, un holocauste, une victime? Eh bien, c'est, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui meurt, c'est la mort, un sacrifice, un holocauste, une victime, c'est la mort. Donc Paul leur dit, je vous exhorte à être des morts vivants. Des morts vivants, vous êtes morts, c'est vrai. Dans un sens, le chrétien, c'est quelqu'un de mort, et dans un sens, le chrétien, il est quelqu'un de vivant. Il est archi-mort, et il est archi-vivant. Il est mort dans le sens qu'il est mort à cette idée qu'il peut diriger sa propre vie. Il est mort à cette idée que mon temps, mon énergie, mes œuvres, mes capacités, mes dons m'appartiennent pour me faire monter au ciel. Tout ça, c'est mort. Il est mort à son ancienne vie de péché. Il est mort à l'idée que je peux faire ce que je veux, quand je veux, je dois me prouver auprès des autres. Tout ça, c'est sacrifié, c'est mis à mort sur l'autel de Dieu par la foi. Et puis le chrétien, mais en faisant ça, il découvre qu'il est enfin vraiment vivant. Vivant, il a cette vie abondante, cette vie éternelle, parce que Christ vit en nous et nous permet d'être ce sacrifice vivant, de discerner quelle est sa volonté en toutes circonstances. Cette vie de Christ en nous, quand on reçoit ce don-là, eh bien, ça jaillit naturellement, automatiquement. On marche dans la lumière. Il nous a donné sa vie. On peut donner notre vie pour les autres. Ça, c'est très vivant. Et en vivant ça, oui, les dons viennent. Les dons se pratiquent quand on a compris le don merveilleux d'abord de Jésus-Christ. Parce que le danger, c'est toujours... on peut très bien pratiquer les dons spirituels, avoir les dons spirituels et pas avoir le don merveilleux de Jésus-Christ. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit à ces gens en Matthieu 7, les gens qui sont venus vers lui, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas utilisé des dons spirituels en ton nom ?» Et Jésus dit, « Oui, c'est bien, mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Ces gens, c'est clair, ils avaient des dons spirituels, mais ils n'avaient pas le don, la relation avec Jésus-Christ. Donc, à nous de vivre dans l'Église, trouver notre place en discernant les choses ainsi, plutôt en nous offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, à ne pas se conformer au monde ici-bas. Et c'est ainsi qu'on découvre le ministère, la fonction que Dieu nous réserve. Je sais que dans le monde, cette question n'est pas facile. La question des ressources humaines n'est pas facile. Le DRH, il a un travail difficile. Et si on faisait un tour de cette pièce, combien ici, dans leur vocation, dans leur métier, dans leur vie, ont vraiment trouvé la place qui leur convient, là où ils peuvent agir avec zèle, avec joie, qui correspondent à vos capacités, à vos études, à votre trajectoire de vie? Combien ont vraiment trouvé ce poste? Je pense que beaucoup diraient, je l'attends encore, parce que dans ce monde déchu, il y a tous ces enjeux. Il y a la concurrence, il y a la jalousie, il y a l'argent, il y a la mauvaise répartition des ressources, il y a la loi de la survie des plus forts, et c'est ça qui affecte les ressources humaines dans le monde. Mais si vous regardez bien, c'est parce que les ressources humaines, ils croient tous la même doctrine, c'est la doctrine du salut par les œuvres. Le salut par les œuvres, c'est que je dois être meilleur que l'autre, je dois concurrencer l'autre, je dois monter moi-même, et c'est ça qui crée une ambiance pourrie dans beaucoup de domaines. Mais la Bible offre. C'est pour ça que dans l'Église, c'est tout à fait autre. L'Église n'est pas basée sur cette doctrine du salut par les œuvres. L'Église est basée sur Romains, la doctrine du salut par la grâce. Et maintenant, sur la base de la grâce et le salut en Jésus-Christ, ces enjeux, ces concurrences, ces jalousies, ces manières d'occuper des postes, pas parce qu'on est apte ou doué, mais parce qu'on a des connexions, parce qu'on pratique la corruption, tout ça, ça part parce qu'on sait que Dieu nous aime tous de la même manière. Il nous a déjà tous graciés, on a tous déjà une place garantie, on a tous déjà la meilleure place assis sur le trône garantie. Alors le reste, vivons nos dons dans l'humilité, dans la fidélité, dans le zèle, dans la joie, et que Dieu soit glorifié. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que Jésus-Christ est venu être ce sacrifice pour nous, sacrifice à la croix. Il s'est donné à nous, tu nous as tant aimé que tu nous as donné le don merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Et si nous avons reçu ce don-là, eh bien le reste coule de source. Le source étant Jésus-Christ qui habite en nous par son Esprit. Et nous pouvons savoir que dans sa sagesse, il nous a fait différemment. Et on peut toujours tous avoir une place dans son Église et vivre une vie passionnante, épanouie, lorsqu'on te sert et lorsqu'on sert les autres et on se donne pour les autres. Agis encore dans notre Église, conduis-nous plus loin pour que nous puissions grandir à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.